France Inter, le 7-10.
Claude Askolovitch, bonjour. Dans la revue de presse, vous nous parlez d'un pasteur.
Un pasteur luthérien, Paul Frey, que l'on traîne sous les crachats avec sa famille dans les rues de Célestat, sa ville juste libérée en 1945, et que l'on force à balayer ses rues avec autour du cou une pancarte « Das habe ich dem Führer zu verdanken », c'est au Führer que j'ai le droit. Je lis cette scène de l'épuration dans les DNA et dans l'Alsace à propos du livre d'un autre pasteur d'aujourd'hui, Michel Wekel, une belle figure intense qui explore les non-dits de sa région, donc l'engagement hitlérien conscient de luthérien, de pasteur alsacien dans une petite terre où souvent nazis et anti-nazis voisinaient. C'est tout un exercice complexe et libérateur que la vérité lisait le journal. Wekel évoque sa propre famille. Il raconte comment lui, enfant, éprouvait du dégoût à entendre le mot « juif ». Il est publié aux éditions de La Nuée Bleue qui appartiennent au DNA et ainsi un très grand journal accompagne les siens dans leur histoire. Au symétrique de la France, Sud-Ouest ranime ce moment précieux, les années 50-60, quand le rugby français, le flair, s'inventait dans les Landes, terre de passe croisée entre Dax et Mont-de-Marsan, club d'André Boniface qui fit du poste de trois quarts centre le lieu même de la création et qui est parti à 89 ans rejoindre son frère Guy, arraché à leur fusion à la Saint-Sylvestre 1968. Et chaque mot que nous livre Sud-Ouest ce matin ranime des bonheurs éternels. Le site du journal raconte un bouton de manchette que Guy Boniface avait arraché à son blazer officiel lors d'une tournée en Argentine pour l'offrir à un amoureux de rugby local. Et ce bouton, après des dizaines d'années, avait été ramené en France à André le Survivant. Vous en lisez sur les bonnies aussi dans le Figaro, dont le journaliste David Rera se souvient qu'ils furent des personnages littéraires, magnifiés par Denis Lalanne, Denis Tillinac, Antoine Blondin, Roger Nimier, Kléber Edens et leur héritier Sébastien Lapac. Qui oubliait ce port de tête, cette élégance col boutonné, cette façon de serrer le ballon contre le cœur? Vous en lisez sur les bonnies dans La Dépêche, qui se souvient que Georges Pompidou avait demandé à André Boniface de ne pas changer sa façon de jouer, même quand on le chassa de l'équipe de France. Et pour André, La Dépêche ranime un vieux titre de l'équipe pour le footballeur hollandais Johan Cruyff, il était le jeu. L'équipe elle-même, forcément, est sublime, et sublimes sont les souvenirs de Richard Esco, grand journaliste à qui Boniface avait raconté qu'avant les matchs, il écoutait Nabucco de Verdi. André Boniface, au corps de l'Hermès de Praxitèle, qui rêvait d'un jeu avec des passes à l'infini. Boniface, que l'équipe, de toute sa puissance d'alors, avait soutenu lors de son éviction du 15 de France, organisant une souscription auprès de ses lecteurs pour l'emmener, lui et son frère, à Naples, où nous affrontions l'Italie. Et c'est pitié qu'après cela, l'équipe s'oublie en ne donnant pas sa une à Boniface, préférant la facilité commerciale de l'avant-avant-match de football Paris-Barça. Si je t'oublie l'équipe, si je t'oublie Boni.
On parle aussi de deux profs, Claude.
Monsieur Chapelière et Madame Gauthier, que le monde raconte et qui enseignent au lycée Jacques Feder d'Épinay, Seine-Saint-Denis, et qui à l'entrée du gymnase, ils sont profs de gym, collectent les téléphones portables des élèves et relèvent le temps d'écran. 4h25, tu as baissé, c'est bien, 7h15, tu as réinstallé TikTok. Ensuite, le cours commence, on fait de la boxe au bahut. Nos profs ont décidé de s'attaquer au portable en 2020 quand ils ont vu les ados revenir accros et gras du confinement. Et ces mômes qui disent familièrement du téléphone « je l'utilise tellement trop » et qui ajoutent plus joliment « les réseaux sociaux nous emportent », se désintoxiquent un peu, mais ensuite arrivent les vacances. Il faut s'imaginer le prof en Sisyphe, est-il heureux ? Vous en lisez d'autres des profs dans la Provence qui titrent sur le bannissement des portables au collège et dans le Figaro où des enseignants de français, ceux-là, semblent les gardiens épuisés de la lecture des bons livres, les classiques pas seulement, car dans nos bahuts, on lit le Cid, mais aussi juste La fin du monde, magnifique pièce de Lagarce sur les retrouvailles d'un homme condamné avec sa famille. Mais autour du bahut, en dehors du bahut, règnent les écrans, les portables. Le Figaro fait chorus avec le Centre National du Livre dont les statistiques rendraient mécontemporains. Les jeunes passent 10 fois plus de temps sur leurs écrans que sur les livres, et sont-ils souhaitables, les livres qu'ils aiment, les ados, des histoires d'amour façon dark romance, imprégnées de relations toxiques? L'école peut-elle encore, par Madame Bovary, faire pièce aux héritiers méchants de la collection Harlequin? Cette référence ne me rajeunit guère, mais en même temps me dit que les discours sur le déclin ne datent pas des écrans. Et vous pourrez, auditeurs à mi-parents, corriger un peu les impressions funestes en écoutant un chouette podcast de nos cousins du Mouv', mis en ligne l'automne dernier, qui s'intitulait « Les jeunes et la lecture, une grande histoire d'amour, malgré les idées reçues ».
On parle enfin d'un mort.
Qui atteste du présent, celui-là? Un mort ressuscité, splendide, mutuel, car une anidie, autrefois fois ministre en chef de l'État indien du Tamil Nadu, mort en 2018, mais qui, dans un meeting électoral, vient de chanter les louanges de son successeur, qui est aussi son fils. « La nation sait comment tu as bataillé pour sauver la vie des gens », a lancé le fantôme, ramené du néant pour quelques milliers de dollars par un alchimiste de l'intelligence artificielle et du deepfake, ces images animées chouettes comme des vraies. Et ainsi, les échos nous emmènent dans l'illusion indienne. L'Inde, qui ce printemps renouvelle ses parlementaires et où l'intelligence artificielle investit la politique. Alors on ressuscite de vieux dirigeants plus populaires que les politiciens actuels. On fabrique des films où l'on fait dire à des adversaires ce qu'ils ne disent pas, ou bien on fait croire que l'on parle anglais, c'est mignon. Tout ceci est à la fois terrifiant et surréel. Le peuple est-il dupe ou bien accepte-t-on simplement les codes d'une nouvelle narration ? En farfouillant sur Internet, les échos ont titillé ma curiosité, j'ai appris que ce Premier ministre du Tamil Nadu, que Papa Fantôme a câliné, avait été prénommé Staline par son géniteur en 53, et ce géniteur fantasque avait été écrivain, homme de théâtre, scénariste de film, avant la politique de son vivant et au-delà désormais. Peut-être l'Inde ne fait que se ressembler. Pendant ce temps, j'en termine. Street Press, en ligne, nous raconte comment des artistes d'extrême droite fabriquent des images hyper réalistes pour illustrer les dangers mortels de l'immigration. Et l'Opinion, à sa une, nous dit que l'intelligence artificielle risque le blackout tant elle consomme de l'énergie. Va-t-on s'en plaindre ?
Claude Askolovitch, merci beaucoup. À demain pour la revue de presse.